Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise, américaine valorisée à 200 milliards de dollars.
Elle gagne pas d'argent aussi.
Alors, elle gagne de l'argent, mais elle en perd plus qu'elle n'en gagne. Elle fait quelques bénéfices quand même, mais elle est valorisée à plus de 150 fois les bénéfices.
Et qui viennent uniquement
Alors qu'ils gagnent uniquement avec des contrats avec des
de
États,
l'État.
donc notamment les États-Unis d'Amérique, mais aussi d'autres États, principalement de la sphère occidentale. Cette entreprise s'appelle Palantir et elle a publié, c'était la semaine dernière, vendredi dernier, sur Twitter, sur X, un manifeste en 22 points, manifeste sur la République technologique, donc en version condensée, qui est issue d'un texte de Alex Karp, qui est donc le PDG de cette institution de Palantir. Et alors, ça a suscité beaucoup de réactions, positives comme négatives. Certains crient au technofascisme, d'autres applaudissent et trouvent ça très bien, notamment chez ceux qui sont plutôt de la sensibilité politique de Peter Thiel et puis de Alex Karp, sachant que Alex Karp a un parcours qui est idéologique assez intéressant. On va en discuter. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas Palantir, c'est une entreprise fondée en 2003 à Palo Alto. Le nom déjà vient du Seigneur des Anneaux. Le Palantir, c'est la pierre de vision qui permet de voir loin, partout, en temps réel.
Mais qui rend fou celui qui la regarde.
Qui rend un peu fou celui qui la regarde, parce
Parce
qu'elle
que
est...
y a Sauron qui aussi le voit
Tout à
qui
fait.
regarde.
Tout à fait. Ce Sauron est en lien direct avec le Palantir, et donc quiconque détient le Palantir pense qu'il a un certain pouvoir, gagné justement par les pouvoirs de la pierre de vision. Mais enfin, il est aussi ça le rend très corruptible et très fragile vis-à-vis de
Sauron,
Sauron.
il se met à faire des choses que Sauron lui demande.
Voilà, exactement. Donc c'est pas
Comme
forcément quel...
Saruman d'ailleurs.
Voilà, exactement. Saruman, justement, peut discuter avec Sauron grâce à cette pierre. Donc
Mais en même
elle est
temps, du coup,
fondamentale.
il est devenu l'esclave de Sauron.
Voilà, exactement. Tout en étant persuadé qu'il aura une place de choix, que voilà.
Voilà.
Donc c'est un élément du Seigneur des Anneaux qui n'est pas forcément
Le plus
uniquement du
sympathique.
voilà, c'est pas forcément du côté du bien, quoi.
Non.
Mais le nom résume quand même assez bien le business, parce qu'ils construisent des logiciels d'analyse de données, en fait, pour les agences de renseignement, donc pour l'armée américaine, pour la police des frontières, pour l'armée ukrainienne depuis 2022, pour la CIA. Ce sont leurs systèmes qui ont aidé à localiser Ben Laden. Leurs outils tournent en ce moment dans des salles de commandement que la plupart d'entre nous ne verront jamais. Et donc, c'est une entreprise extrêmement particulière. Alors, ils font un travail.
Je comprends même pas qu'elle soit cotée.
Déjà, elle est cotée depuis quelques années, depuis 2020, je crois, si je dis pas de bêtises. Le cours a été multiplié par 10 depuis. Elle a été donc pas cotée pendant 17 ans. Et d'ailleurs, son PDG actuel était plutôt contre la cotation à l'origine. Et aujourd'hui, elle l'est. Effectivement, c'est un peu étrange de voir une société comme ça qui est aussi intriquée dans les contrats gouvernementaux être cotée de manière publique. Ça peut paraître assez étrange.
J'ai qu'un seul conseil à donner, c'est n'achetez pas.
Et
Quand je lis ça, je suis foudroyé.
ouais. Et
C'est
alors,
extrêmement inquiétant.
le créateur de cette entreprise s'appelle Peter Thiel. Il faut peut-être lui consacrer une ou deux minutes parce que c'est quand même la colonne vertébrale idéologique de tout ça, même si c'est pas
Et
lui qui a écrit le manifeste.
de Vance, le vice-président, qui a
Et
travaillé
Vance,
avec lui.
tout à fait, J.D. Vance, sa carrière a été comment dire, propulsée en grande partie grâce à Peter Thiel, grâce ou à cause, peut-être, on ne sait pas encore. Donc même si Peter Thiel lui-même n'a pas écrit ce manifeste, il est quand même à la fois fascinant et dérangeant à la fois, et il a eu une grande influence sur le parcours intellectuel de Alex Karp. Et alors, Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal, tout d'abord, donc premier investisseur aussi externe de Facebook. C'est un libertarien de la première heure, et
Avec
surtout
Musk.
Tout à fait. PayPal, il l'a fait avec Musk, effectivement. Il est surtout l'un des rares habitants de la Silicon Valley aussi à avoir soutenu Trump ouvertement dès 2016, en avoir assumé les conséquences dans un milieu qui n'était pas forcément tout à fait d'accord avec ce positionnement. Et il a une thèse de fond qui, à mon avis, ne vous parle pas du tout, qui est que la compétition, c'est pas terrible. En fait, le capitalisme, ça va, mais l'objectif final en fait de toute compétition, c'est d'arriver à une situation de monopole, parce que le monopole vous donne le temps de construire quelque chose qui dure dans le temps. Et lui, son obsession, c'est les monopoles et la stagnation technologique. C'est-à-dire qu'il se dit non mais on a promis aux gens des voitures volantes dans les années 80, et au final ce qu'on a eu, c'est Internet et TikTok. Bon, alors Internet c'est très bien, mais en quelque sorte, le peuple a été déçu dans les promesses technologiques qu'on lui a délivrées. Et sa conviction profonde, c'est que l'Occident est en déclin, pas forcément par malchance, pas forcément par un sens de l'histoire, mais en fait par choix, par lâcheté intellectuelle, par refus de l'Occident de se définir. Sa fondation finance des bourses pour que des jeunes abandonnent l'université et créent des entreprises. Il a financé le procès qui a coulé Gawker, et vous le trouvez soit brillant, soit dangereux, et pour ma part, c'est un petit peu les deux à la fois, quelque part. Et alors, il a écrit un essai que j'ai lu d'ailleurs il y a quelques années, un essai long qui résume, je pense, assez bien sa pensée, qui s'appelle Le moment straussien, qu'il a écrit en 2003.
Ah oui, parce qu'en plus, il est straussien.
Ouais, qu'il a présenté à l'Institut Hoover et qu'il a publié en 2007. Alors c'est un texte qui circule surtout dans les cercles conservateurs américains, peu connu du grand public. C'est un texte quand même assez révélateur de ce que Peter Thiel pense. Et alors la thèse centrale du livre, je vais pas vous en faire une recension en long, en large, en travers, mais la thèse centrale du livre part un peu du moment, en fait complètement du moment du 11 septembre 2001, et il nous livre cette espèce de paradoxe. C'est-à-dire que ce qui nous définit, c'est que nous sommes une démocratie libérale dans laquelle il y a beaucoup de droits individuels, mais que quelque part, pour survivre, il faut être aussi capable presque d'aller contre cette espèce d'identité trop rigide et prévisible pour justement se protéger contre des effets extérieurs comme le terrorisme, etc. Et alors c'est une thèse qui se défend, mais qui a aussi quand même des implications en termes de pente glissante qui sont assez particulières. C'est-à-dire que il y a un peu ce côté, on est une démocratie libérale, mais peut-être il faut avoir un petit moment presque dictatorial pour survivre. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que ça va donner avec la suite du 11 septembre, puisque ça donne le Patriot Act, qui est quand même une restriction de droits individuels assez notable dans l'histoire des États-Unis.
Et surtout, c'est le moment où les États-Unis se sont mis à attaquer la Terre entière, ce qui était une curieuse façon de promouvoir les idées libérales, mais enfin, ça, c'est autre chose. C'est là.
Ouais.
Moi, j'ai toujours pensé que Bin Laden avait gagné.
Ouais.
Le moment où il forçait les États-Unis à une réponse militaire, ça a été la fin des haricots pour nous, parce que du coup, on a des gars aussi cinglés que ceux qui ont écrit ça, qui vont s'amuser à prendre le pouvoir en disant que c'est pour défendre les intérêts supérieurs des États-Unis. Mais les États-Unis, ils n'ont pas besoin d'avoir... Ils sont isolés du monde, ils n'ont pas besoin d'une armée, ils n'ont pas besoin d'aller taper sur la terre entière. Ils pourraient se débrouiller tout seuls sans avoir besoin de tous ces gars-là. Je préférais des États-Unis qui soient un pays ou une espèce de Suisse immense, où les gens sont libres, plutôt que d'obéir à des corneaux comme celui-là. Moi, ça me fout une trouille, ce genre de truc. C'est la crétinerie de la droite. Si vous voulez, il n'y a pas tellement de différence entre ça et, dans le fond, la doctrine nazie. Allez, c'est ça. Il faut avoir une force de frappe, il faut avoir des gens costauds qui n'ont pas peur de taper, qui sont pas embarrassés de pression morale. C'est un discours nazi, ça.
Complètement. C'est un discours dont la pente glissante est absolument dictatoriale.
Non, c'est pas dictatorial, c'est nazi. C'est tout à fait extraordinaire, parce que quand vous lisez ça, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire, mais enfin, offrir les limites du soft power sont désormais exposées. Prévaloir dans ce monde exige plus qu'un beau discours moral. Cela exige du hard power. Le hard power, bien sûr, sera construit sur le logiciel. Et en même temps, après ça, il vous dit, il faut aussi qu'il y ait une armée de métiers. Il faut une armée. Donc l'armée va utiliser des logiciels pour aller taper sur le reste du monde, pour imposer les valeurs américaines. Non, mais mettez une croix gammée, ça ira plus vite. Mais pour moi, c'est effrayant du début à la fin, tout ça, si vous voulez. C'est tout ce que je déteste dans la droite, un système centralisé géré par des gens plus intelligents que les autres, qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire. On leur explique avec des logiciels ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont rien à dire. D'ailleurs, on parle de démocratie libérale, mais c'est la aujourd'hui, les États-Unis, c'est pas une démocratie libérale, c'est une plutocratie corrompue. Donc, mais pour moi, c'est l'horreur absolue, ça.
Ouais.
Et c'est toutes les idées fausses qu'un esprit faux peut avoir quand il a eu trop d'argent pour son propre bien, quoi.
Mais alors, il y a une idée qui pour moi s'entend, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, qui s'entend, qui tout le monde peut défendre cette idée-là, mais c'est l'idée selon laquelle de toute façon va y avoir nos ennemis qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer des horreurs, donc il faut qu'on le fasse aussi quelque part et qu'on soit encore meilleur qu'eux, qu'on soit toujours en avance.
Ben ça, c'est...
Est-ce que ça s'entend, ça, pour vous?
Non, ça ne s'entend pas, parce que, si vous voulez, c'est l'idée, il faut que je tape le premier, parce que,
ouais.
Vous savez, le général en chef de l'OTAN, comment il s'appelait, je ne sais plus très bien, mais il y a quelques années, il était à la retraite, il était allé rendre visite à ses copains à l'OTAN, et ses copains à l'OTAN, en temps, lui avaient annoncé financièrement, c'était qu'ils avaient prévu d'attaquer dans l'ordre l'Iran, la Syrie, le Liban, le cinq États qui devaient attaquer dans les,
ouais.
Avant qu'ils nous attaquent, quoi.
Ouais.
Mais autant je conçois qu'un pays, ça c'est une stratégie offensive.
Ah oui, clairement. Oui.
C'est une, pour aller taper sur la gueule des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, pour les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, retourner au service militaire parce que ça leur apprendra de ma... Donc, moi, je suis tout à fait partisan de stratégie défensive, mais les États-Unis n'ont pas besoin d'avoir une stratégie offensive. Ça fait depuis le 11 septembre, ils ont choisi les stratégies offensives et ça les a amenés de désastre en désastre. Donc, pour moi, c'est... Et en plus, c'est le contraire de ce que sont les États-Unis dans leur essence, c'est-à-dire non pas un pouvoir centralisé, mais un pouvoir décentralisé, un pouvoir où on se méfie du type qui a tous les pouvoirs, etc. C'est leur constitution était une merveille d'équilibre. Ça fait 30 ans qu'ils la trahissent, et ça fait 30 ans qu'ils vont de désastre en désastre. Qu'est-ce qu'on fait? On n'en a pas fait assez, on doit en faire plus, quoi.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Si tout l'argent qu'ils vont mettre là-dedans, ils le mettaient dans l'éducation des enfants, et un petit peu de nettoyer les écuries d'OGS à Washington, ça irait mieux, quoi. Donc c'est exactement contraire au programme de Trump tel qu'il l'a fait présenter. Alors je comprends bien ce que Trump est en train de faire. Quand j'ai lu ça, je comprends pourquoi il attaque la Terre entière.
Oui.
Mais c'est pas du tout ce qu'il a présenté aux électeurs.
Non, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est assez curieux parce que Peter Thiel soutient Trump dès 2016. Donc
oui,
ça veut dire que dans l'idée,
aussi.
Il soutient un peu la même idée. Il soutient J.D. Vance. J.D. Vance, lui, il fait partie plutôt de la frange...
Et qui se dit catholique.
Voilà, qui se dit catholique et qui appartient plutôt à la frange isolationniste. C'est-à-dire que, par exemple, il était plutôt opposé. D'ailleurs, c'était un des seuls du cabinet de Trump avec l'autre... son nom m'échappe. Mais qui s'était opposé justement à l'intervention en Iran. Et du coup, c'est assez curieux de se dire que à la fois Peter Thiel et Alex Karp peuvent soutenir cette thèse-là, mais à la fois ils défendent aussi ce manifeste, qui est un manifeste, comme vous l'avez dit, qui est vraiment offensif, effectivement.
C'est comment assurer la suprématie des États-Unis sur le reste du monde. Mais
oui,
d'abord, j'ai pas envie que les Américains aient la suprématie sur moi. Si je veux continuer à avoir des chameaux dans le désert et à m'intéresser à rien, c'est leur problème. Non, mais ça, si vous voulez, je trouve ça, c'est Mein Kampf. C'est effrayant. Mais effrayant, et c'est effrayant de conneries.
Ouais.
Je veux dire, c'est contraire à tout ce que... C'est contraire à la libre disposition de chaque individu, qui est la base de notre civilisation. Notre civilisation, c'était pas les chevaliers teutoniques qui allaient enseigner la gloire du Christ au peuple slave en les écrabouillant. Ça, c'est ça. Notre civilisation, c'est comment faire pour que chaque homme libre puisse exercer sa liberté librement. C'est une horreur.
Et
pour moi, c'est l'horreur absolue. Ça me fait passer des frissons de penser que un pays comme les États-Unis pourrait tomber sous la coupe de gens comme ça, quoi. C'est effrayant.
Oui, après, c'est aussi, ils étaient bien contents d'avoir des gens comme ça sous la main. Mais alors, moi, je me pose une question aussi, c'est à quel moment, parce que là, dans...
Quelle différence entre ça et l'avant-garde du prolétariat, là, qui nous a collé tous les goulags? Parce que l'étape suivante, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, vous allez dans un goulag, hein, c'est évident. Il n'y a pas une fois le mot liberté là-dedans, d'ailleurs. Je crois pas que je l'ai lu une seule fois.
Non, je suis pas sûr, non, effectivement.
La liberté individuelle, ça ne la regarde pas.
Non.
La vraie question n'est pas savoir si des armes basées sur seront construites. Elles le seront. Oui, on a bien vu les grands porte-avions américains, ils sont pleins d'intelligence artificielle et on les a foutus en l'air avec des drones qui ont zéro intelligence artificielle.
Je suis pas d'accord, on les a pas foutus en l'air.
Mais ils étaient à 3000 km parce qu'ils avaient peur de se faire bombarder, donc ça sert à rien. Donc l'intelligence. La question, si vous voulez, plus on va dépenser. C'est un truc complètement scientifique en disant si l'intelligence artificielle, on va tout gagner avec ça, et donc il faut qu'on dépense des fortunes là-dedans, et comme ça on pourra taper sur les autres sans. Si un soldat réclame un meilleur équipement, nous devrions le lui fournir. Ben, pourquoi ils ont besoin de soldats, les États-Unis? Pourquoi ils doivent...
Ils se voient comme le gendarme du monde.
Oui, mais dès qu'il leur a donné ce droit.
Mais on est tout à fait en droit de contester ce statut.
Non, mais pourquoi les fonctionnaires n'ont pas besoin d'être nos prêtres? La vertu du service public ne justifie pas tout. Oui, alors... L'ère atomique touche à sa fin, c'est pas demain la veille. Aucun autre pays dans l'histoire n'a autant progressé les valeurs d'émancipation. Je sais pas, l'Angleterre par exemple, qui a introduit l'interdiction de l'esclavage au XVIIe, elle fait beaucoup plus pour les valeurs d'émancipation que les États-Unis qui l'ont fait 2 siècles après, quoi.
Et pour vous, c'est un point intéressant quand même, parce que les États-Unis, c'est vu presque, à la base en tout cas, comme le maître étalon de la liberté, cette espèce de terre nulle avec des gens de bonne volonté.
Oui, mais c'est là-dessus qu'ils sont, quand ils ont créé, c'est le seul pays qui a été établi dès le départ avec une constitution, pas avec des...
Oui.
Donc il n'y a pas un mot de la constitution américaine,
mais
il n'y a
pas un mot de la liberté. Mais à quel moment, parce que c'est une discussion intéressante.
C'est arrivé au moment où ils ont gagné, ils ont battu les soviétiques, là. Et ils se sont dit, non, maintenant, c'est nous le maître du monde.
Oui.
Ça, c'est un manifeste pour rester le maître du monde.
Mais est-ce que c'était pas déjà le cas un petit peu avant?
Avant, il y avait les communistes qui nous emmerdaient bien. Faut pas oublier qu'en 1978, ils se sont fait virer du Vietnam.
Est-ce que la guerre du Vietnam, c'était justifié?
Absolument pas. Qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas?
Qu'est-ce
qu'ils en foutent dans les autres pays du monde?
Oui.
C'est ça. Ils ont perdu. Ce qui est marrant, c'est que ces gars-là qui se réclament d'un ordre militaire, là, ils parlent dans l'armée tout le temps, ils ont perdu toutes les guerres avec toute leur sophistication, leurs armes, etc.
Ouais.
Depuis la dernière guerre où ils ont fait match nul, c'était la Corée. À part ça, ils ont perdu partout ailleurs, depuis en Vietnam, en Afghanistan, bientôt ils ont l'air de perdre maintenant aussi. Donc, ils ont tout. C'est un rêve de puceau, ça. C'est un rêve de type qui est impuissant.
Alors, je vais parler du type en question quand même, puisqu'il s'agit du PDG de Palantir, donc Alex Karp, qui naît à New York dans une famille qui a rien de prédisposition comme pour un PDG de la Silicon Valley, puisque son père est un pédiatre juif, sa mère est une artiste afro-américaine. Il grandit à Philadelphie avec son frère cadet. Dès l'enfance, il est dyslexique. Ses parents sont militants pour les droits civiques. Il hérite de ce côté maternel, dit-il lui-même, une forte affinité pour la lutte contre la discrimination. C'est un détail assez important pour comprendre la suite, puisque Karp n'est pas un wasp libertarien comme Peter Thiel qui défend l'Occident depuis une position qui serait assez confortable. Il vient d'une famille mixte, marquée par des fractures historiques américaines, et il arrive au final un peu aux mêmes conclusions que Peter Thiel sur la nécessité de défendre une civilisation. Alors le truc, c'est que leur méthode de défense, elle est quand même pour le moins offensive. Il fait une licence.
Leur défense, c'est d'attaquer les autres.
Oui, on peut dire ça, oui. Il fait une licence de philosophie à Haverford College, donc un petit liberal arts college en Pennsylvanie, puis un doctorat en droit à Stanford, où il rencontre justement Peter Thiel. C'est là que tout bascule pour lui, puisque il devient entrepreneur, enfin, il devient pas entrepreneur, mais il décide ensuite de faire quelque chose d'assez inattendu pour un PDG de la Silicon Valley, à savoir justement une thèse de philosophie à Francfort, en allemand, sous la direction de Jürgen Habermas. Donc, Habermas, c'est vraiment
rien qui
le...
manque.
Voilà, c'est vraiment.
Il y a Habermas, il y a Strauss, il y en a pas un qui manque. Hein.
Voilà, donc Habermas.
Tous les fachos sont là.
Pour expliquer, à l'époque, c'est vraiment la figure centrale de la théorie critique européenne allemande. Donc vraiment le maître étalon du centre
gauche. La philosophie allemande aura fait à l'Europe.
Ah oui, et pas que au XVIIIe siècle,
pas
effectivement.
Pas qu'au XVIIIe, au XIXe et au XXe, ça a été.
Et même après la Seconde Guerre mondiale, du coup. Et Carpe, il va avec l'intention de travailler avec lui, ça tourne vite assez mal, leur rupture intellectuelle est assez bien documentée, les positions d'Alex Carpe sont fondamentalement incompatibles avec l'éthique du discours habermasienne. Habermas, lui, passe sa carrière à construire des cadres pour le dialogue rationnel, l'émancipation. Carpe, lui, s'intéresse à la psychodynamique de l'agression, à ce qui fait que les sociétés humaines produisent de la violence, du ressentiment. Il fait d'ailleurs une thèse sur l'antisémitisme.
Il aurait mieux fait de dire René Girard, ça aurait été plus utile.
Alors, Peter Thiel apprécie beaucoup René Girard, mais en tout cas, ça fait partie de ses grandes références intellectuelles. Après, je ne sais pas réellement ce qu'il en tire, lui, dans son analyse, mais je sais qu'il apprécie René Girard. Et donc, sa thèse
a... pas celui-là, hein.
Non, je sais pas. Mais sa thèse rédigée en 2002 s'intitule Agression dans le Lebenswelt, le monde vécu, au sens phénoménologique. Elle étend le concept d'agression, en analysant le lien entre jargon, l'agression, la culture. Bon, en gros, il parle de l'antisémitisme post-nazi, c'est-à-dire le fait que des gens qui n'ont pas du tout participé au crime allemand ont quand même une sorte de ressentiment vis-à-vis des juifs après la Seconde Guerre mondiale. Et alors, derrière, ça fait que il réfléchit beaucoup sur toute la philosophie, sur toute l'histoire européenne, et puis il le fait depuis Francfort. Et cependant, la conclusion qu'il tire de ces années-là, c'est que l'élite intellectuelle européenne est brillante dans la critique, mais qu'elle est complètement paralysée dans l'action. Elle produit des analyses infiniment raffinées sur les pathologies du pouvoir, mais sans jamais construire quoi que ce soit. Et c'est un peu ce dégoût de ce nihilisme analytique qu'il pousse vers Peter Thiel, vers l'idée que la vraie responsabilité intellectuelle passe par la construction et pas par le commentaire. Et bon, alors derrière, ils vont créer donc cette entreprise qui est à la fois fascinante et à la fois effrayante, quoi. Palantir, ça peut être un outil extrêmement puissant pour créer une dictature aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs le gros problème de la chose, c'est que ils ont cette idée que de toute façon il va y avoir des outils ignobles qui seront créés, et si c'est pas par nous, ce sera par nos ennemis. Donc il vaut mieux que ce soit dans la main entre guillemets d'hommes vertueux, mais c'est la définition de toute dictature finalement. C'est toujours un peu comme ça. C'est toujours il faut des grands pouvoirs, mais que ce soit tenu par des bonnes personnes.
La puissance américaine
a rendu
possible une paix extraordinairement longue. Trop de gens ont oublié ou tiennent pour acquis, il n'y a pas eu de conflit militaire direct, etc. Putain, mais les États-Unis, je crois que dans leur histoire, depuis leur indépendance, il n'y a eu que 3 ans où ils n'ont pas été en guerre. Ça lui a échappé.
Oui.
Il n'y a eu que 3 ans où ils n'étaient pas en guerre contre quelqu'un.
La définition qu'il a de paix est.
C'est la paix entre grandes puissances.
Est très sinueuse, puisque effectivement, c'est la paix entre grandes puissances.
La paix entre grandes puissances, mais la paix entre grandes puissances. C'est simplement parce qu'il y a eu l'arme atomique, ce qu'avait dit Raymond Aron de façon beaucoup plus courte en disant « guerre impossible, paix peu probable
».
Donc, si vous voulez, c'est... Comment dire... C'est certainement, tout ça je peux vous dire, c'est certainement ça le produit d'un esprit non chrétien. Parce qu'il n'y a pas une trace de... justement de René Girard, de ce truc qui, de ce qui fait la beauté du christianisme, cette espèce de contradiction entre... Jamais il ne se pose la question du péché qu'il a en lui. Lui, il est bon. Mais quand je lis ça, je comprends enfin pourquoi Trump est en train d'attaquer tout le monde.
Oui.
C'est le résultat de ça.
Alors justement, est-ce que
je me disais, mais il est fou, qu'est-ce qui lui arrive?
États-Unis sont pas en train d'officialiser qu'ils arrivent dans une période post-libérale, post-chrétienne, en quelque sorte, c'est-à-dire que
la constitution des États-Unis, c'est la chrétienté, c'est le libéralisme, c'est justement l'homme est mauvais, donc il faut l'empêcher de prendre le pouvoir. Et là, il vous dit, il faut qu'on prenne tous les pouvoirs parce que nous, on est bons.
Ouais.
Non mais les mecs, ils sont fous, quoi. Ouais. Ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Un bon philosophe, la première des choses qu'il doit faire, c'est se connaître lui-même. Et là, lui, il pense qu'il est bon et qu'il peut y aller. Non, mais c'est une histoire de fou, ça, c'est. Si c'est ça qui mène, si c'est le genre de théorie qui amène les États-Unis, qui mène Israël et les États-Unis en ce moment, c'est de la folie. C'est de la folie pure.
Ouais.
C'est de la folie. Ça, il faut partir en courant en disant merci beaucoup. Hein.
C'est-à-dire que c'est, surtout pas. C'est un peu le manifeste de la puissance pour la puissance.
C'est Mein Kampf. C'est-à-dire le meilleur l'emporte.
Et il y a deux semaines, on faisait une émission sur les libertés peuvent-elles survivre sans vertu, ce qui était un...
Là, il n'y a pas de vertu du tout. Il n'y a pas de liberté du tout là-dedans. Ouais. C'est la puissance, c'est la recherche de la puissance pour la puissance.
Ouais.
C'est une abomination.
Et est-ce que, oui, c'est un peu, on conserve finalement les acquis du libéralisme chrétien, on conserve le capitalisme, on conserve la puissance militaire, etc., les outils que ça nous a créés, mais derrière,
mais
on abandonne quelque part cette
responsabilité. C'est au service d'une espèce d'élite autoproclamée. Qui comprend tout et qui, elle est capable de diriger les peuples en dessous.
Ouais, 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 il y a complètement
c'est,
ça.
C'est,
ouais.
C'est une... Je veux dire, tout est abominable. Non, bah. dites-moi, c'est moi. Je m'attendais pas à ça.
C'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est quand même des gens importants.
Mais surtout, si vous voulez, moi, j'avais toujours une certaine, un fond de sympathie pour toute une partie de la droite américaine que j'aimais bien, parce qu'il y avait ce sous-jacent chrétien qui, c'était des gros hypocrites aussi, mais enfin, au moins, tandis que là, il se donne même pas la peine de cacher l'abomination, quoi. Il l'annonce tranquillement.
Oui, complètement. Et puis après, il y a clairement un jugement moral, particulièrement à la fin du manifeste, sur en quelque sorte les bonnes cultures et les mauvaises cultures. Alors on peut juger que certaines cultures ont davantage contribué à l'avancement de l'humanité, si tant est qu'on définisse cet avancement au départ. Mais on va dire tout ce qui est avancement philosophique, matériel, il y a une grande partie qui vient de l'Occident. Mais derrière, il y a un peu cette idée qu'il faudra dominer les autres cultures, et ça de manière assez offensive, ce qui a tendance d'ailleurs à nous revenir en pleine tête, puisque derrière on a aussi des phénomènes d'immigration massive
ils ont dominé quand ils portaient l'espérance contre l'Union soviétique et les saloperies, quand ils ont dominé, quand ils ont battu les nazis. Mais c'est pas en devenant nazis qu'ils vont dominer. Les nazis, ils ont rien dominé du tout. Ils se sont fait ratatiner.
Ouais.
Et c'est pas étonnant que les États-Unis se fassent battre partout, parce que des hommes courageux qui veulent leur liberté battront toujours l'intelligence artificielle. Toujours. Partout. C'est ce qu'on voit avec les outils, là, ou avec... Donc... C'est un des textes les plus abominables que j'ai lu dans ma vie, quoi.
Ouais.
Si c'est ça, les États-Unis, je veux pas en faire partie, hein. Je crois qu'ils vont se faire battre, surtout parce que c'est pas du tout l'esprit américain, que je connais bien, mais l'esprit du peuple américain. Ça, c'est l'esprit. D'une intelligence dévoyée qui pense que si vous êtes de sort de cette espèce de manifeste, la force prime le droit, quoi.
Oui, bah là c'est vraiment le
parachèvement. Il n'y a pas de faible.
Oui, c'est le parachèvement de ce qu'Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel.
C'est exactement ça. C'est
appliqué en l'occurrence.
Le complexe militaro-industriel a raison et on doit continuer à le.
Ouais.
Je lutterai contre ça toute ma vie. Ça, c'est même, ce qui m'en reste, en tout cas, c'est quelle abomination. Oui, je peux pas dire. C'est comme le 9-11 avait consacré la victoire de Ben Laden sur les États-Unis, parce que ça fait prévaloir aux États-Unis la partie la plus mauvaise des États-Unis, cette partie-là, justement, qui s'est lancée ensuite dans toutes ces guerres imbéciles où ils ont tué des millions de personnes. Et ça, c'est la victoire ultime des nazis, quoi. Pour moi, c'est... Il n'y a rien de pire, voilà, il n'y a rien de pire. Les communistes, ils avaient au moins une vague idée qui était louable, que c'était pour le bien de l'humanité. Et les nazis, ce n'était pas acceptable parce que c'était la race dominante qui devait l'emporter. Ben là, si vous voulez, c'est les dominants qui doivent l'emporter.
Oui, là, c'est l'idée que c'est une civilisation dominante qui doit l'emporter sur...
Et à l'intérieur de cette civilisation dominante, les sachants, ceux qui sont...
Oui.
C'est que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine, mais si j'ose dire ce que je dis sans arrêt, c'est que le danger, ça n'a jamais été l'intelligence artificielle, ça a toujours été la connerie naturelle, mais ça, c'est un vrai exemple de connerie naturelle, ça c'est vraiment, on peut pas être plus con que ce truc-là.
Ouais, mais alors, selon vous...
Il faut en dire à découvert, pas lentil. Hein.
Ah oui, carrément.
Ça, c'est le genre de truc qui va nous amener dans des désastres.
Ouais. Mais est-ce que pour autant ils vont perdre parce que c'est...
Ah bah en tout cas, il faut tout faire pour qu'ils perdent.
Parce que le truc, c'est que Palantir, c'est quand même une entreprise extrêmement... qui a énormément de pouvoir.
Ouais, c'était pas... Bien sûr.
Et d'ailleurs, ce manifeste, il intervient aussi un peu pour continuer à draguer en quelque sorte le gouvernement américain, pour continuer d'avoir des contrats, ce qu'ils sont promis d'avoir d'ailleurs. Ils en ont de plus en plus et ils font de leur secteur d'activité...
Il faut vite couper les dépenses militaires américaines pour empêcher ces gars-là d'avoir des pognons. Hein. J'espère que les électeurs américains vont faire leur devoir et virer tous ces gars-là parce que...
Mais ils ont eu le truc, c'est qu'ils ont eu l'impression de faire leur devoir et d'ailleurs...
Les SS avaient l'impression de faire leur devoir. Oui, hein. Ils étaient toujours très...
Ce que je veux dire, c'est que l'électeur américain a voté plutôt pour moins de dépenses militaires. Ou en tout cas,
il a voté contre ça.
Et il a voté contre ça.
Il a voté contre ça, et c'est ça qu'il a.
Et au début, d'ailleurs, du mandat de Trump, il promettait des baisses de dépenses de 200 milliards par an dans l'armement.
Militaire, et là, donc, il s'est fait convaincre par ses corgnons. Je comprends maintenant, si vous voulez. Honnêtement, je me demandais qu'est-ce qu'il lui a pris, mais c'est un esprit faible et l'autre, là, Berman, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est les Allemands qui... Protégez-nous des Allemands qui résonnent de travers, hein, parce que c'est eux qui ont foutu en Europe l'Europe en l'air. Et...
Ouais.
Pour moi, c'est tout ce que je hais, mais profondément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Autant j'entends la gauche m'agace, mais je me dis, bon, c'est des braves couillons, ils ont des bonnes intentions. Mais là, c'est des salopards qui n'ont même pas de bonnes intentions.
Non, ils n'ont pas forcément le
de temps à perdre. Ils n'ont pas du tout le but, si vous voulez. Mon Dieu, la vie est là, calme et tranquille. C'est rempli de haine, de fureur, de... Je m'attendais pas à voir ça.
Ouais, je vois que vous êtes vraiment ému par rapport
mais
à ça.
Oui, parce que si vous voulez... J'ai toujours gardé une espèce d'espoir que les États-Unis reviendraient à leurs racines. Il sait peut-être pas, mais en ce qui est certain, c'est que si Trump suit ça, c'est pas Trump qui va l'amener. Hein. Il s'éloigne de plus en plus de ce qui était leur racine, qui était plutôt gentille.
Ouais. Mais après, est-ce que c'est pas aussi le mouvement historique que poursuivent les États-Unis depuis le début? C'est-à-dire que forcément, au début, c'est une nation plutôt petite.
Mais en 1917 et tout, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de leur élite, depuis Wilson en particulier, a systématiquement agi sur le camp politique américain pour forcer les Américains, Wilson, Roosevelt, etc., pour intervenir à l'extérieur. Mais au début, il y avait quand même des tas de gens qui disaient, non, en aucun cas, la constitution américaine, c'était ce qui se passe en Europe, on n'a rien à cirer. Ils sont des sales cons.
Après, est-ce qu'on n'est pas un peu content qu'ils soient intervenus pendant la Seconde Guerre mondiale, au moins?
Oui, on est peut-être content, mais...
C'est aussi l'énorme fondement.
À l'époque, c'était vraiment ces gars-là qui étaient contre nous. Ils sont battus contre ces gars-là. Ouais. Et maintenant, ils sont devenus ces gars-là.
Oui, un peu, ouais.
Eh ben, non. À ce moment-là, moi, je suis content qu'ils soient intervenus, mais c'est pas ceux qui sont intervenus qui sont ceux-là.
Oui.
Ça, c'est, si vous voulez, c'est exactement le contraire. Les gars, Eisenhower, Marshall et tout, ils seraient battus jusqu'à la mort contre ces gars-là, quoi. Mm-hmm. Ça, c'est l'abomination de la désolation. C'est... Il faut le lire, hein. Je le recommande, vous le mettrez sur le site, j'espère.
Oui.
sur le site, parce que pour que les gens comprennent pourquoi je... L'élite technologique américaine a le devoir de participer à la défense de la nation. Oui, mais est-ce qu'elle a le devoir de participer à ce que la nation attaque tout le monde? Ben non.
Oui, c'est parce que c'est...
Cela exige du hard power. Le hard power de la CIA sera construit sur le logiciel. Bon. Le service national devrait être un devoir universel. Ben, si vous aviez dit, vous devriez écouter le discours, le débat qui avait eu lieu entre Westmoreland, le général qui commandait l'armée américaine Vietnam, qui était un gros con, et Milton Friedman, parce que le service national à l'époque, c'était des conscrits qui allaient au Vietnam. Mmh. Et Milton Friedman avait détruit Westmoreland parce que ça veut dire le service national devrait être un devoir universel. Ça veut dire que dans le fond, vous devez obéir aux ordres militaires, même si vous n'êtes pas d'accord. Même si donc je veux dire, c'est-à-dire que vous êtes devenu un sujet là. Vous êtes votre liberté. Ce qu'il y a de bien dans une armée de métier, c'est que les types ils l'ont choisi.
Oui.
Tandis que là, non, vous êtes forcé, c'est-à-dire que votre liberté disparaît.
Ouais, complètement.
Donc, mais en tant que société, ne voudrait plus ne reposer sur une armée de volontaires professionnels et de mener la prochaine guerre que si tout le monde en partage le risque et le coût. Mais je suis bien certain que Peter Thiel, il n'en partagera pas le risque.
Non.
Il sera à l'abri dans un bunker quelque part.
Le coût, à la limite, peut-être, mais pas le risque.
Mais pas le risque, mais il fera plein de pognon. Il doit pouvoir débattre de l'opportunité d'engager une action militaire à l'étranger tout en restant absolument fidèle envers ceux qui l'envoient au danger. Mais la question, c'est qu'est-ce qui donne aux États-Unis le droit de pouvoir débattre d'aller envahir un pays étranger? Quelle différence entre ça et Hitler qui allait envahir la Pologne? Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que les Polonais, ils sentaient des pieds ou je sais pas quoi. Mais je veux dire... Un pays doit pouvoir débattre de l'opportunité d'engager. Un pays ne doit pas pouvoir débattre de l'opportunité d'engager un truc militaire à l'étranger. Si quelqu'un vient l'attaquer, il a le droit de se défendre. Mais il n'a pas le droit de débattre si je vais aller attaquer les types parce qu'ils sentent des pieds. Enfin, je veux dire, tout ça est une abomination du début à la fin.
Et ça engage un remodelage complet de l'identité profonde américaine. Ça peut engager même la question tout simplement de la démocratie, c'est-à-dire
il n'y a pas besoin de démocratie là-dedans, parce qu'il y a des types qui s'achètent,
il y a un peu l'idée, bon, peut-être on va garder des élections, mais enfin de toute façon elles n'ont aucun intérêt, on s'en fiche de toute façon,
on rapporte la décision directement. Il parle pas de démocratie directe. Non, c'est les.
Et par ailleurs,
les élections, ça marche pas.
L'entreprise Palantir finance et les démocrates et les républicains.
Ben évidemment.
À chaque élection.
Comme vous savez, la plupart des grandes entreprises, en particulier en armement aux États-Unis, ils ont une usine dans chaque circonscription. De façon à ce que. S'il y a un type qui commence à voter mal au Congrès, on lui dit on va former l'usine dans ton. Puis tu y seras plus jamais. Donc, les usines d'armement aux États-Unis, c'est un moyen direct d'acheter.
D'influencer les
gars que les gars. Donc, à aucun moment, il ne parle de démocratie directe. Les logiciels, ça devrait pouvoir permettre de demander leur avis aux citoyens américains toutes les deux semaines, sans que ça coûte rien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pour aller mettre sur la gueule des autres. Mais je sais pas qui a écrit ça, mais.
Bah, c'est le PDG de Palantir qui, qui en est à l'origine. Ouais. Bah, je peux comprendre.
Il y a rien de. Mais c'est vraiment.
Mais à la fois, est-ce que les États-Unis peuvent en sortir de ce truc-là? Parce que comme vous dites, ils ont un pouvoir complètement fou. Ils ont une usine dans chaque circonscription.
Ils vont s'en sortir parce qu'ils en parlent. À partir du moment où vous avez votre budget militaire coûte 1500 milliards de dollars. Mmh. Et que vous avez des déficits de 2000 milliards de dollars par an, qui va leur prêter le pognon qui viendrait de l'étranger pour leur prêter le pognon. Ben, ils vont.
Au bout d'un moment, les gens arrêtent d'acheter de la dette américaine, et puis les taux montent, et puis ils ne peuvent plus assumer.
Pour l'instant, ils sont. Ah, pour les étudier la philosophie, il aurait dû étudier la comptabilité, celui-là. il leur ferait beaucoup de mal à l'humanité. Mais. Je pensais pas même que intellectuellement ça pouvait ce genre de discours qu'on a beaucoup trouvé en Europe pouvait naître aux États-Unis. Vous voyez, c'est pour moi c'est très ça prouve qu'ils sont plus malades que je ne le pensais.
Oui. Ouais, ouais, je pense que ça vient aussi de la philosophie de Peter Thiel qui à certains égards peut se justifier, mais qui est une pente extraordinairement glissante. Et là, c'est le côté, oui, d'accord, on est une démocratie libérale, mais le paradoxe, c'est que peut-être parce que on est une démocratie libérale, on a le droit de devenir une dictature plus morale que ne l'auraient été des vrais dictateurs. Donc, à la fin, vous êtes quand même une dictature comme
les
autres.
S'il n'y a pas d'élection, si vous allez attaquer les pays d'à côté, à quel moment ils parlent de...
Non, comme vous dites, à aucun moment ils parlent de liberté individuelle.
Liberté, ils ne connaissent pas ce que c'est. Et à aucun moment ils ne parlent religion. Mmh. Voir qu'un Américain qui ne parle pas de religion, ça blesse Pantôme, hein, parce que c'est, les églises sont pleines. Ah, mon Dieu. Vendez pas l'entier. Mmh.
Mais
c'est gouverné par des fous.
Au-delà de cela.
Mais moi, je serais président des États-Unis, je ne donnerais pas un sou à ces gars-là.
Oui, parce que vous n'êtes pas.
Non, mais je ne donnerai pas un sou parce que c'est ce genre de gars qui vous amène dans des désastres.
Ouais. Vous n'êtes pas interventionniste, vous n'avez pas d'intérêt particulier à envahir
mais
tel ou tel
pays.
Enfin,
j'ai une capacité
tel pays.
Tout à fait étonnante sans doute, mais reconnaître la saloperie, le diable quand je le vois. Quoi. Mm. Ça, c'est monstrueux.
Ouais.
Et c'est diabolique.
Ça pose derrière aussi la question du coût. D'une dictature. Parce que, autrefois, ça avait un coût humain énorme, et puis il y avait des frictions, chaque individu pouvait être une friction administrative, vous avez des milliers d'agents. Et là, maintenant, vous avez un outil automatisé qui permet effectivement de tout savoir sur vous. Et d'ailleurs, même quand vous aviez 200 millions de fonctionnaires, vous n'aviez pas autant d'informations sur les gens qu'aujourd'hui. Vous avez peut-être plus d'informations sur les gens qu'eux-mêmes n'en savent sur eux-mêmes.
C'était non. Le meilleur des mondes, ou c'était en 1984, je ne sais plus lequel des deux, où il y avait une série de gars qui partaient dans la jungle brésilienne pour être libres, et pour être, parce qu'ils en avaient tellement plein le cul d'être surveillés partout.
Oui.
Ça va finir par arriver à ça, on sera tellement... que moi je vais partir m'acheter une cabane dans le Minas Gerais, ça va, et faire comme Bernanos, en 1940 et 1945, et puis vivre dans un endroit où il écrivait ses livres dans un café avec un toit de tôle, et il entendait la... Mais il était libre, avec la pluie qui tombait sur le toit de tôle. Quoi. Ça, c'est beau.
Ouais.
Ça, c'est horrible.
Ouais. Est-ce que c'est pas aussi le monde qui s'ouvre à nous et qui...
Si c'est le monde qui nous ouvre à vous, qui s'ouvre à nous, je comprends pourquoi les gens font pas d'enfants. Hein.
Ouais.
Ça, c'est la... Alors là, c'est la... C'est... Amener des enfants dans ce monde-là, merci. C'est un monde, je vous dis, c'est... Sans Satan à plein nez. Ça pue.
C'est le produit des États-Unis post-libéraux,
enfin,
post-chrétiens.
De cette classe qu'il y a aux États-Unis, ouais. qui est montée à. Et qui confonde la capacité de calcul avec l'intelligence. C'est une connerie. C'est pas parce que quelque chose calcule à la vitesse de la lumière que c'est intelligent. Et c'est pas parce qu'elle est capable de faire des relaisons, d'écrire des textes et tout, qu'elle est intelligente. Là, ça n'a rien à voir, c'est... Ben ouais. Bah.
Voilà sur la République technologique. Ben, ça n'annonce pas forcément. Vous
savez ce que ça veut dire ? Chaque fois qu'on mettait derrière un mot que tout le monde comprend un deuxième mot, ça veut dire le contraire. Ouais. République technologique, ça veut dire que c'est pas une république. L'intelligence artificielle, ça veut dire que c'est pas de l'intelligence.
En tout cas, ça veut pas dire
la justice sociale, ça veut dire que c'est tout sauf juste. Mmh. Donc, si vous voulez, dès que vous mettez deux mots, ils s'annulent.
Ouais.
Donc, république technologique, ça veut dire pas de démocratie.
Enfin, dictature militaire, ça se contredit pas forcément.
Dictature militaire, non, sauf.
Ça peut très bien aller ensemble.
Ça peut. Une dictature militaire, oui, mais c'est une dictature, ça rajoute rien, mais c'est fait par des officiers, donc c'est moins.
Oui, là, c'est plus fait par des ordinateurs. En l'occurrence.
Non, dictature.
Enfin voilà, je trouvais que c'était un sujet tout de même assez important.
Tout à fait essentiel. J'espère que les gens vont regarder cette émission.
Je pense que ça aura des répercussions.
Parce que ça, c'est ce que doivent vouloir aussi les types à Bruxelles. Les types à Bruxelles, les Macron, tout ça, c'est ça leur.
Un petit peu, et eux, leur idée à Bruxelles, c'est de se dire, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'États européens qui eux-mêmes ont eu des contrats avec Palantir, y compris la République française. Cependant, eux, leur idée, ce serait d'avoir en quelque sorte un Palantir européen, quoi. Le truc, c'est que c'est des fonctionnaires qui s'y mettent et pas forcément des entrepreneurs, donc c'est un peu voué à l'échec.
Mais des entrepreneurs qui ont la quasi-totalité de leurs commandes qui viennent de l'État, j'ai des doutes. Pour moi, l'entrepreneur, oui. c'est celui qui sert le public, c'est pas celui qui sert les puissants. Hein.
Oui, c'est ce qu'on disait sur Peter Thiel. Là, pour moi, c'est plutôt un désaccord.
Quand il faisait un truc comme PayPal, c'était intelligent, c'était pour le peuple, ça marchait bien. Ça, c'est contre les petits gens.
Peter Thiel n'est pas un grand fan de la concurrence. Donc oui, lui son truc c'est plus les contrats avec l'État et puis avoir un monopole, parce que quand vous avez un monopole, c'est ce qu'il dit, il a partiellement raison, c'est que vous pouvez penser très très loin dans le futur et pas forcément vous dire comment je vais satisfaire le client si c'est pour penser pour
un futur abominable. Mais oui, je vois là, pas quel est l'avantage de penser loin.
Ouais, là, c'est un peu ça. C'est l'idée, c'est un peu de dire soit c'est moi qui le fais, soit c'est l'État directement. Et donc je m'arroge des pouvoirs étatiques. Oui, ou un autre État qui va le faire. Donc ouais, c'est un petit peu cette idée-là. Donc voilà, sur la République technologique, je pense que c'est un texte qui a fait beaucoup réagir et qui, à mon avis, sera assez important, dont on parlera dans le futur, qui aura peut-être été un point nodal de la philosophie occidentale et des rapports qu'ont les États entre eux et envers leur population aussi. Je ne sais pas encore, mais il m'a semblé que c'était un texte important. Et donc,
c'est le point d'aboutissement de la philosophie allemande. Oui,
là-dedans, oui, il y a de la philosophie allemande, oui, clairement.
Il y a même que ça.
Oui, oui, que ce soit d'influence national-socialiste ou habermasienne, quelque part, il y a un petit peu cette idée-là. Oui. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Le texte sera disponible sur le site de l'Institut des Libertés. Et je vous invite à le regarder.
Et regardez-le et parlez-nous-en. Ça
n'annonce rien de bon pour nos libertés individuelles, peut-être plus pour vos actions du secteur de l'armement, si vous en avez, je ne sais pas encore, mais oui, pour nos libertés individuelles, je crois que là, on peut faire une petite croix dessus, effectivement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.
Merci.